entendu, des confs à écouter. Deuxième épisode dans cette série de podcasts et de conférences ayant pour thème la formation à l'esprit critique. François Jost est l'invité de ce séminaire à l'occasion de la parution cette année de son livre « Médias, sortir de la haine ». L'auteur, après une remise en perspective historique et philosophique, nous donne quelques clés pour comprendre la défiance envers les médias, mais aussi des outils pour une critique utile et éclairée du monde médiatique d'aujourd'hui. François Jost est professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Cette conférence est introduite par Sylvie Pierre, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication pour l'université de Lorraine. La communication qui suit a été réalisée en visioconférence le 9 décembre 2020.
Je vais donc présenter François Jost, qui est l'intervenant de cette rencontre cet après-midi. Donc, pour ma part, je suis Sylvie Pierre, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'INSP de Lorraine et je suis en charge avec Nolwenn de ce séminaire qui s'appelle « Faits didactiques et éducation A ». C'est un séminaire qui a été créé en 2015 et qui vise à rassembler des chercheurs du CREM, donc, c'est-à-dire de notre laboratoire, le Centre de recherche sur les médiations, mais aussi d'autres laboratoires dans une approche pluridisciplinaire. Et donc, le séminaire vise à aborder les questions liées aux éducations A, c'est-à-dire aux questions vives, aux questions épistémologiques de ces questions éducatives, et puis aussi à aborder l'éducation aux médias et à l'information, les questions liées à l'esprit critique des élèves. Et ce séminaire s'adresse en priorité aux étudiants de l'INSP, c'est-à-dire les futurs professeurs des écoles, des collèges, des lycées, mais aussi des étudiants qui sont dans le parcours conseillers principaux d'éducation, professeurs documentalistes, mais aussi plus largement à la communauté de l'INSP, c'est-à-dire aux enseignants maîtres formateurs qui enseignent dans les établissements, premier degré, second degré, aux partenaires aussi de l'INSP, les associations qui sont partenaires de l'école, et à toute personne intéressée par le sujet, notamment des doctorants de différents champs disciplinaires peuvent assister à ce séminaire. Donc il y a 5 rencontres par an et dans le cadre de ce programme, nous invitons à chaque rencontre un enseignant-chercheur. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en virtuel, donc je ne dirais pas en chair et en os, mais en virtuel, François Jost, qui est professeur émérite sémiologue à Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Il est fondateur du Centre d'études sur les images et les sons médiatiques. Il est aussi l'auteur de nombreux livres, ouvrages, articles sur l'image, les médias, l'éthique des médias et aussi, par exemple, j'en ai plusieurs sous la main, pour une éthique des médias, la méchanceté en acte à l'ère du numérique et puis aussi, par exemple, réflexion, les médias et nous. Donc, tous ces ouvrages, vous avez la liste, nous avons communiqué la bibliographie des ouvrages de François Jost, il y en a beaucoup d'autres. Il intervient aussi dans les médias, il a écrit il y a peu de temps un article dans Le Monde. Voilà, donc nous avons la chance de pouvoir l'entendre cet après-midi sur la question alors des médias et de la haine dans les médias, donc sa réflexion par rapport à cela. Je rappelle que ce séminaire aujourd'hui s'inscrit dans la journée du 9 décembre, donc la journée laïcité, puisque cela fait 115 ans que la loi de 1905 a été votée et que la laïcité est au cœur de nos préoccupations, nous, à l'INSP, formation des enseignants aux valeurs de la République. Je suis pour ma part référente laïcité de l'INSP de Lorraine. Et donc, j'ai demandé à François Jost, bien sûr, de vous présenter ses travaux, sa réflexion en la matière et aussi par rapport à la laïcité. Donc, son intervention va durer une heure environ. Et puis ensuite, vous pourrez poser des questions, interagir avec lui. Comme d'habitude, lorsque vous voudrez intervenir, vous lèverez votre petite main virtuellement. Ainsi, nous verrons qui veut prendre la parole dans la liste des participants. Et lorsque vous poserez votre question, merci de vous présenter avant de poser votre question afin que l'on sache qui parle. Voilà, donc je te laisse la parole, François, pour ton intervention.
Merci Sylvie, merci Nolwenn aussi pour avoir préparé la technique avec moi. Je suis très, très heureux d'être parmi vous, même si c'est de façon virtuelle. J'ai regardé le programme, effectivement, et les travaux que vous menez sur les faits didactiques et l'éducation. Je trouve que c'est très intéressant. Je vais essentiellement parler de mon livre qui est paru il y a quelque temps, mais il va de soi que l'éducation aux médias me concerne absolument dans la mesure où j'ai toujours pensé que si l'on fait de la sémiologie comme j'en fais, c'est évidemment d'abord pour en tirer des leçons. Pour moi, l'éthique est très, très liée à c'est un prolongement de la sémiologie, comme pour Descartes, la morale était la suite de la physique. Ça fait 40 ans à peu près que j'enseigne l'analyse des médias. Alors là, si vous êtes censé dire, on ne dirait pas, c'est incroyable, comment tu as fait pour rester si jeune. mais c'est des interactions qu'on ne peut pas avoir, évidemment, dans ce mode de fonctionnement. Je crois que j'ai été le premier à faire un cours sur la télé uniquement en 82 à la Sorbonne Nouvelle. Donc j'ai appris pas mal, j'ai appris des générations d'étudiants, si je puis dire, à analyser les images, à les critiquer. Et je suis arrivé à une situation, finalement, où je vois que, d'une part, les Européens ont de moins en moins confiance dans les médias. Il y a à peu près 30% des Européens qui ne font plus, qui ne veulent plus regarder les informations. Il y a des politiques ou des journalistes, enfin surtout dans des politiques, qui considèrent que les médias sont les ennemis du peuple. Donc tout ça, je dirais, m'inquiète. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, d'autant plus qu'il y a aussi des choses comme des faits, comme des kiosques à journaux qui sont incendiés, comme une radio, France Bleu Isère, qui a été incendiée en 2019, des journalistes qui n'osent plus sortir dans la rue, d'une certaine façon, et qui mettent des bonnettes, qui ne mettent plus les bonnettes de leur marque de télé ou de radio, de peur d'être violentés par des gens, etc. Donc, tout ça fait que, finalement, cette situation m'inquiète, et j'en arrive à quelque chose de paradoxal, qui est, finalement, de me demander si il ne faudrait pas soutenir les médias plus que les vilipender. Hein. Donc, le désir de ce livre, ça a été ça. Ça a été de se dire, finalement, on est passé dans une autre sphère, dans un autre moment, qui est maintenant une critique des médias, qui fait que il est difficile de fonder une démocratie, d'avoir quelque chose de commun et de pouvoir travailler ensemble. Alors, pour commencer, je parlerai du point d'interrogation de mon livre. Ce livre qui a été publié en septembre, après il devait sortir en mars, et que je préférais à l'époque, juste préférais qu'il sorte en janvier, mais l'éditeur l'a repoussé en mars. En mars, on a envoyé le service de presse à tout le monde, mais le confinement est arrivé, donc il n'y a pas eu de suite beaucoup, et finalement, il est sorti en septembre dernier, un petit peu comme beaucoup d'auteurs, handicapés par ces non-sorties en série. Alors, pourquoi un point d'interrogation, je disais tout à l'heure, ça s'appelle ce livre, donc « Médias, deux points, sortir de la haine, point d'interrogation ». Ce qui est une mauvaise idée pour les éditeurs, parce que le point d'interrogation, en général, il n'est jamais dit par les journalistes, il n'est jamais avec l'intonation, etc. Mais si j'ai un peu discuté avec l'éditeur, parce qu'il trouvait que ce n'était pas terrible de mettre le point d'interrogation. Et en fait, pourquoi j'y tiens, moi, c'est parce que je pense que ce n'est pas un livre de recettes que j'ai fait. C'est-à-dire, ce n'est pas sortir de la haine, je vous donne le chemin et les recettes, mais est-ce que vous voulez ensemble qu'on sorte de la haine. Est-ce que vous avez cette volonté sans laquelle ça ne sera pas possible? C'est-à-dire que c'est pas moi qui peux décréter que j'ai les solutions pour sortir de la haine. Donc, d'où ce point d'interrogation qui est au fond une interpellation au lecteur. Est-ce que vous êtes d'accord pour sortir de la haine ou non? Alors, pour aujourd'hui, je vais procéder en fait par trois moments. Avant d'abord que les critiques envers les médias, les critiques les plus habituelles envers les médias, c'est d'une part qu'ils sont inféodés au pouvoir. Alors ça, on l'a entendu énormément pour les plus vieux d'entre nous pendant le régime gaulliste et par la suite, je reviendrai. Deuxièmement, que les médias dépendent des puissances d'argent, et ça je vais le développer. Et troisièmement, tout ça donne en fait une sorte de lassitude de l'info. J'ai dit tout à l'heure que sur une étude qui a été menée il y a un an ou deux sur l'Europe et l'Afrique, on s'est aperçu qu'il y avait un tiers des Européens, des Africains, qui ne voulaient plus écouter les informations parce que ça les déprimait, parce qu'ils ne voyaient pas du tout ce qui pouvait changer au monde, et donc que leur journée était plus mauvaise quand ils avaient écouté des informations que quand ils ne l'avaient pas écouté. Ce qui est pour moi quand même dramatique. Sky News en est arrivé d'ailleurs à faire une télévision à un moment pendant le Brexit, garantie sans Brexit. C'est-à-dire qu'ils ne parlaient plus du Brexit, parce que les gens n'en pouvaient plus d'entendre parler du Brexit. Les informations sur le Brexit avaient un impact négatif sur leur humeur à 58% des personnes interrogées, où ils avaient le sentiment qu'on ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour 40%, ou encore qu'ils n'étaient pas sûrs que tout ça soit vrai, 34%. Donc on voit que finalement il y a un effet très négatif des informations. Alors, ces interrogations sur l'information, ces critiques sur l'information ont été relancées lors de la crise des Gilets jaunes, où on a vu une très forte critique, et pas critique d'ailleurs, il faudra distinguer le mot critique et le mot haine, hein, on a vu rejaillir une haine des médias. Alors j'étais parti pour étudier ça, d'une page Facebook qui s'appelait Vécu, le média des Gilets jaunes, et j'ai étudié un tout petit peu ce qui se disait sur cette page Facebook. Et on va voir qu'il y a eu un certain nombre de questions sur la dépendance. Dans cette page, on voyait que les médias étaient une sorte de grande hydre, pieuvre, etc., qui mêlait à la fois des grandes sociétés capitalistiques et d'autre part les gouvernements. Alors, la première question que je me suis posée, c'était de savoir si ces critiques envers les médias étaient nouvelles. C'est donc la première chose que je vais étudier. C'est-à-dire, est-ce que vraiment la situation dans laquelle on est justifie la haine des médias plus que celle qu'on a connue depuis 40 ou 50 ans? Bon, je fais une parenthèse pour dire que je suis professeur en sciences de l'information et de la communication, mais le défaut parfois de la communication et des sciences de l'information et de la communication, c'est de rester un petit peu trop dans le présent sans suffisamment remonter dans le passé. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir une approche un peu, d'abord une approche historique pour comprendre les choses. Alors, première partie donc de ce speech, l'histoire. La télévision publique aujourd'hui, il faut s'en rendre compte, puisque ici je suis le plus vieux et qu'il y a des gens très jeunes et qui ne connaissent pas forcément évidemment cette histoire que moi j'ai je dirais, vécu enfant. La première chose, il faut voir que la situation des médias d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle fut notamment sous De Gaulle. Hein, il y a eu un livre de Jérôme Bourdon sur la télé sous De Gaulle. Ça a été pas mal étudié par plusieurs chercheurs. Et bon, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, il faut rappeler, pour commencer, que sous le régime de Gaulle, on avait un ministre de l'information, hein, pas un ministre de la culture et de la communication. Le ministre de la culture a été introduit en 59, mais on avait d'abord un ministère de l'information, c'est-à-dire un ministère qui, en l'occurrence, examinait les conducteurs des informations du journal télévisé avant qu'elles soient diffusées. Le bureau, d'ailleurs, du ministère de l'information était à la maison de la radio, au-dessus des studios de télé. Donc, il y avait un contrôle de l'information qui était très fort, au point, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette image qu'on doit trouver d'ailleurs sur YouTube, d'Alain Perfit, le ministre de l'information en 1963, qui vient présenter à Léon Zitrone, un présentateur très connu à l'époque, le nouveau format, enfin la nouvelle forme du journal télévisé. C'est-à-dire, c'est le ministre qui vient expliquer comment le journal télévisé sera différent, et il explique notamment qu'il y aura surtout des images pour que, finalement, pour éviter les commentaires qui seraient critiques. Ce contrôle de l'information, ce contrôle du gouvernement va au-delà de l'information. Il y a notamment, on l'a appris grâce à une chercheure que je pourrais vous citer après, si vous voulez. On a appris qu'il y avait certains programmes, pas d'information, des programmes, qui étaient en fait scénarisés par le ministère, par certains ministères, pour faire passer des idées. Il y a par exemple une série qui s'appelait Le Couple, qui, je cite, va exposer un commentaire soutenu par des dialogues en situation les thèmes économiques et sociaux dont le grand public doit prendre conscience. Donc vous voyez, dans la fiction, on ajoutait une visée tout à fait informative et, j'allais dire, propagandiste. Bon, il faut évoquer aussi, pour aller vite, mais il faut évoquer 68, où en 68, les médias étaient considérés comme complices des étudiants par le président de la République, Georges Pompidou. Et le 23 mai 1968, le gouvernement a supprimé les moyens techniques qui permettaient de diffuser des images de télévision pour éviter que l'on montre les manifestations. Je vous rappelle qu'en 68, qu'en 68, il y a eu, je crois, 38 journalistes qui ont été mis à la porte à la suite des événements, de la façon dont ils avaient essayé d'en rendre compte. D'où cette phrase très connue de Georges Pompidou qui dit « Les médias, l'ORTF, pardon, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France ». Alors c'est tellement la voix de la France qu'à l'époque, l'opposition ne peut pas apparaître dans le petit écran. L'opposition peut apparaître dans les périodes électorales, mais sinon, il n'est pas question qu'elle apparaisse. Bon. Le monopole de la radio et de la télévision va durer jusqu'en 82, hein, il faut se rappeler qu'il y avait jusqu'à présent trois radios en France, quelque chose comme ça, et en 82, on va en avoir 1000. Hein. Donc, un éclatement total. Mais il faut attendre 1982 pour que finalement le monopole de la diffusion radiophonique et télévisuelle soit aboli. Ensuite, on a une grande période dans les années 70-80 pour la presse écrite de l'empire de Hersant. Hersant, patron de presse qu'on appelait le papivore de la presse ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il rachetait absolument tous les journaux. Et dans les années 80, il avait 40% de la diffusion totale des quotidiens français. Hein. Puis après, vous avez Dassault qui va racheter Hersant. Donc, De tout ça, je dirais, je vais très vite, hein, dans mon livre, ça prend quelques dizaines de pages, je dirais que dans tout ça, vous voyez que on peut dire que ce n'était pas mieux avant. Hein, ce n'était pas mieux avant. Et même si on compare avec aujourd'hui, je dirais, et sans hésiter, sans absolument hésiter, c'était bien pire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? On a encore, évidemment, ce soupçon, qui est notamment, comme je l'ai dit, dans Vécu, le média des Gilets jaunes, on a ce soupçon de lien avec le gouvernement, avec les puissances de l'argent. Pour le gouvernement, c'est vrai qu'il y a eu, notamment en 2019, il y a eu des journalistes qui ont été convoqués par la direction, par la DGSI, parce qu'ils portaient atteinte, soi-disant, hein, au secret de la défense. L'une portait sur les armées utilisées au Yémen et l'autre sur l'affaire Benalla. Bon, ils ont été interrogés, on a considéré que c'était une intimidation, sans doute, mais une intimidation, de toute façon, c'est quelque chose d'indirect, c'est pas une censure ou une interdiction comme ce que j'ai pu vous citer. Sur les relations des présidents avec les médias, on peut dire des petites choses sur Sarkozy, pas sur Hollande en fait, qui n'est pas du tout intervenu auprès des médias, sûrement Macron, etc. Mais ça n'est pas hyper important. En revanche, je pense que les vraies actions viennent plutôt des puissances d'argent. C'est vrai que si vous regardez ce qui s'est passé sur Canal+, depuis que Bolloré s'en occupe, on a vu à plusieurs reprises, d'une part, un documentaire qui mettait en cause ses amis du Crédit Mutuel qui a été interdit. Il a recruté, que vous en souvenez tous, Jean-Marc Morandini pour CNews à un moment, ce qui a provoqué une grève telle qu'il y a eu 40 journalistes qui ont été virés. Ou qui sont partis. Et puis, plus récemment, il y a ces jours-ci, le chroniqueur humoriste Sébastien Thon, qui, imitant Pascal Pro, qui est sur CNews, s'est fait virer, tout simplement, aussi par Bolloré. Donc, il y a des interventions, je dirais, beaucoup plus du côté du privé, surtout Canal+, que du gouvernement. Bon, alors est-ce que pour autant on peut dire que le service public ou le privé est à la botte du gouvernement? Je ne crois pas. Hein. On ne peut pas dire que le direct des manifestations de Gilets jaunes n'a pas été interdit comme sous Pompidou. Hein. Et l'INA a fait une analyse des informations pendant la période du 17 novembre 2018 au 4 janvier 2019, et a montré que le temps qui avait été consacré aux Gilets jaunes était absolument considérable, inédit. C'est-à-dire 176 heures sur LCI au début, hein, c'est-à-dire en janvier 2019, et 184 heures sur BFM, et 25% du temps des grands JT étaient occupés par les manifs des Gilets jaunes. Selon eux aussi, les experts et représentants des Gilets jaunes ont été bien plus nombreux que les représentants du gouvernement. Et donc, bon, on peut pas dire vraiment que les médias n'ont pas rendu compte des événements. Alors, ça n'empêche pas que pour beaucoup de gens concernés comme les Gilets jaunes, ça n'a pas... Ils ne le pensent pas, ils ne le croient pas, et la façon dont les médias ont rendu compte des manifestations ne leur convient pas. Alors, ça nous amène au deuxième point, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les médias ne sont pas crus à cette époque-là ? Alors, on peut partir de la déclaration d'un des Gilets jaunes de l'époque qui était de dire « les médias ne montre pas la vérité ». Ça nous amène à deux questions. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la vérité de l'image, hein? Bon, une chaîne montre par exemple des images censément, qui sont, une chaîne montre des événements qui sont censément déroulés à Paris, alors qu'ils ont été en fait tournés à Bordeaux. Tout de suite, on considère que c'est un mensonge. Il n'y a pas de différence entre, c'est une des choses que j'essaye d'apprendre avec mes étudiants, quelle est la différence entre l'erreur et le mensonge. Ici, on a tout de suite une présomption de mensonge. Pourquoi ? Par exemple, on a eu le premier soir de l'attentat de Strasbourg, l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, on a eu le premier soir une information qu'il y avait eu 4 morts. Le lendemain matin, on a dit qu'il y avait 2 morts. Aussitôt, vous avez eu des tweets ou des réactions sur Facebook qui, voilà, comme celle-ci, attentat, on passe de 4 à 2 morts. Les médias, vous nous prenez pour des cons. Voilà. Donc, refus immédiat, si vous voulez, de considérer que l'information, peut-être, elle a bougé parce qu'on n'a pas la même source, parce qu'on l'a recoupée, parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'était trompé, etc. Présomption de manipulation. Deuxième chose qui était importante, une enquête des décodeurs à l'époque a montré que les gilets jaunes s'intéressaient plus à l'image qu'au texte. Alors, c'est une enquête de, je n'ai pas marqué la date là, mais du début sans doute des événements, qui montre que sur 200 publications les plus populaires, vous avez 94 photos, 62 vidéos et 43 textes écrits. Donc, il y a évidemment une importance donnée aux images qui est fondamentale. Mais qu'est-ce que serait finalement une image vraie, puisque j'ai dit tout à l'heure, on ne montre pas la vérité. Eh bien, en fait, c'est là qu'il y a un changement qui est intervenu dans notre, on pourrait dire un changement épistémologique, dans notre conception de l'image. Pour les gens qui sont dans la manif, et même sans doute pour la plupart des jeunes, avec le smartphone d'abord, chacun peut être le centre du monde. C'est-à-dire que tout part d'une personne, de la personne. Donc la construction de l'information est filtrée par le regard de chacun sur la réalité. L'appareil de prise de vue semble ne faire qu'un avec le corps. Donc ce point de vue, le point de vue sur les événements, est forcément subjectif, puisqu'il dépend de son ancrage dans un corps. Alors que pour les chaînes d'information, il en va un peu autrement. Quand vous avez la caméra avec le smartphone et que vous bougez dans la réalité, vous faites en fait une sorte de long travelling qui traverse la réalité. Les médias, les chaînes d'information en continu fonctionnent absolument différemment. Pourquoi ? Parce qu'elles fragmentent le réel, elles fragmentent surtout le direct, parce que pour accrocher le spectateur, il faut constamment le frustrer. Et donc, on passe des images de la manif, et puis on repasse à un plateau très rapidement pour parler des trucs, et puis on interrompt celui qui est en train de parler pour remontrer la réalité. Et donc, ça donne un rythme plus haletant. Et donc, c'est presque, une rhétorique nécessaire pour les médias en continu, pour donner fortement l'impression de direct. Alors évidemment, cette fragmentation obligée va tout à fait à l'encontre de la façon dont les gilets jaunes rendaient compte de la réalité. Et donc, c'est ce que je développe dans ce livre, ce qui est assez curieux, c'est que finalement, ce que j'appelle la sémiologie, naïve, inhérente à ces discours des gilets jaunes. Cette conception de l'image rejoint très fortement la conception de la transparence telle qu'elle est pensée par le critique de cinéma André Bazin. Vous savez que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu « Qu'est-ce que le cinéma ?» d'André Bazin, il y a une loi dans cet ouvrage, il y a un chapitre qui s'appelle « Montage interdit » et qui est un chapitre absolument fondamental, qui consiste à dire que quand vous avez, par exemple, si vous prenez le célèbre film de Flaherty, Nanook, l'Esquimau, très connu, 1922, à un moment, il y a une chasse aux phoques. Et il explique que si, dans cette chasse aux phoques, vous montez, vous coupez des images des chasseurs, des phoques, des observateurs, etc., ça, vous perdez la crédibilité. Parce que là, précisément, il peut y avoir un mensonge dans le montage. Donc, ce qu'il faut, dit-il, quand on veut, quand l'événement, je cite, hein, quand l'événement est dépendant d'une présence simultanée de deux ou plusieurs facteurs de l'action, il faut rester dans le même plan. Hein. C'est vrai aussi, je crois qu'il étudie l'histoire du petit gosse avec un cheval, là, ces vieux films dont j'ai oublié le titre, le gosse qui est attaché à une corde et qui est entraîné par le cheval. Si vous faites deux plans, on se dit il y a trucage. Si vous faites un seul plan, la crédibilité est plus grande. Et donc, en fait, c'est exactement cette loi que réclament les Gilets jaunes. Et d'une certaine façon, ils ont eu gain de cause, puisque c'est précisément la façon dont RT France, la chaîne russe en France, rendait compte des événements. C'est-à-dire qu'on avait une continuité totale, constamment, de la manif sans rupture, avec des gens qui marchaient dans la réalité. Alors, il va de soi, évidemment, que cette façon de faire opposait forcément la vision des journalistes qui n'osaient plus aller chez les Gilets jaunes et celle des Gilets jaunes où finalement on avait deux visions complètement subjectives de la réalité. Alors, par exemple, un des Gilets jaunes disait le direct, c'est de l'info fraîche, il n'y a pas de trucage, pas de montage, on ne peut pas dire qu'on a triché. Comme si, évidemment, le fait de choisir un angle, de choisir tel sujet dans la réalité, n'était pas aussi une façon de fragmenter la réalité et de la restreindre. Alors, cette idée que la caméra ne bouge pas la réalité et qu'elle en rend compte absolument de façon juste, on l'a trouvé aussi au début de la crise des Gilets jaunes, quand des Gilets jaunes avaient demandé aux ministres de filmer leurs réunions, comme si le fait de filmer leurs réunions n'influait pas sur la réalité, et que la réalité était telle qu'elle, alors qu'évidemment la caméra est un instrument qui change aussi la réalité, qui agit sur la réalité. Donc on a eu deux visions de la réalité qui étaient d'un côté BFM qui filmait les barricades qui brûlaient et d'autre côté des gens qui étaient plus attentifs à filmer ce que on peut plus appeler, je crois, les violences policières. Ce qu'on n'a plus le droit depuis quelques jours. C'est une question qui va se reposer d'ailleurs, parce que, et vous voyez, les choses bougent assez vite, parce que quand on a eu l'affaire, comment il s'appelait, le type qui a perdu un œil, là, Jérôme Rodriguez, c'est ça. Jérôme Rodriguez qui a reçu quelque chose, une flashball dans la figure. Il était en train de filmer avec sa caméra et ça a été filmé aussi par la caméra embarquée de la police. En fait, dans un cas comme dans l'autre, on ne comprend rien à l'image. C'est-à-dire l'image n'est pas du tout quelque chose qui explique, on n'y comprend rien. C'est quand on a pu finalement interroger les gens, regarder les différents points de vue, qu'on a pu comprendre quelque chose, et c'est proprement cette multiplicité des points de vue qu'on peut appeler l'acte journalistique, et qui rend d'une certaine façon caduques les représentations trop parcellaires. Alors, je sais pas pourquoi j'ai du papier blanc en plein milieu. D'accord. Alors, oui, donc une des raisons qui va entraîner la défiance des gens envers les médias, c'est que tout d'un coup, finalement, on découvre que la photo, c'est pas forcément l'objectivation du monde, qu'il ne suffit pas de montrer quelque chose qu'on a filmé pour que ça soit parfaitement compréhensible. Et donc, il y a un écroulement de la croyance en l'image et en l'objectivité de l'image. Donc, dans une autre partie du livre, je vais montrer, et je vais vous résumer un petit peu, comment la croyance dans l'objectivité de l'image, qui existe, je dirais, même chez Roland Barthes, hein, si vous lisez La Chambre claire, vous verrez que dans La Chambre claire, ce qui compte pour lui, c'est que l'image, c'est d'abord, l'image de la réalité. Il ne travaille pratiquement pas sur ce qu'on appelle l'énonciation. Donc, cette croyance dans la réalité de l'image, dans le fait que l'image est une empreinte et qu'elle ne demande pas, fait partie de la doxa sur l'image. Mais en quelques décennies, elle s'est écroulée, comme un trou noir, c'est-à-dire elle s'est écroulée sur elle-même. Alors, pour mesurer comment se produit cet écroulement, je vais partir. Il se produit, en fait, entre 1987 et aujourd'hui. C'est en 1987 qu'on a eu le premier baromètre Kantar, La Croix, hein, qui est maintenant tous les mois de janvier, qui consistait à mesurer la méfiance des Français envers les médias. En 1987, la croyance dans les médias est assez forte. On la mesure, alors c'est très critiquable, mais on mesure cette croyance en posant la question, est-ce que les choses se sont passées vraiment ou à peu près comme le journal, la radio ou la télévision l'ont raconté? C'est ça la question clé qui permet de tester cette évolution de la méfiance. Alors, en 1988, la courbe est au plus haut, hein, c'est-à-dire 65% des gens pensent que la télévision dit les choses comme elles se sont passées. La radio, 59%, et la presse écrite, 56%. Hein, donc, il y a deux tiers des Français qui font confiance à la télévision. Alors, on va voir comment ça s'est écroulé en cinq coups. Hein. Premier coup, c'est 1989, Timmy Shoara. Alors, Timmy Shoara, ça ne dit rien aux plus jeunes. Je le sais, mais ça a été très important à la fois dans l'histoire des médias et pour les Français. C'est en décembre 89 qu'il y a ce qu'on a appelé la révolution roumaine. Le dictateur Ceausescu est chassé du pouvoir et d'ailleurs exécuté dans la foulée. Dans ce mois l'on explique que Ceausescu est un dictateur sanguinaire avec le mélange avec les vampires, Nosferatu, etc. Il y a une image qui apparaît sur toutes les télés du monde d'un charnier. On voit 12 personnes qui sont allongées mortes sur le sol, même une mère avec son bébé dans les bras, qui sont morts tous les deux. On fait savoir à ce moment-là que c'est ce dictateur qui a fait un charnier, etc. Alors, moi, je me rappelle avoir vu ces images quand la télévision les a retransmises, donc en 89, et j'ai dit à ma femme, qui était à côté de moi, on voit 12 morts, mais moi, je n'en vois pas 12 000 comme ils sont en train de me dire. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait 12 000 morts à ce moment-là. Et ma femme m'a dit, écoute, tu diras ça à tes étudiants, mais pour l'instant, on s'en fout, sois sérieux. Ne dis pas n'importe quoi, tu vois bien qu'on nous dit qu'il y a 12 000 morts. Bon, là, je donne un mauvais rôle à ma femme, qui est par ailleurs une très bonne critique de l'image. C'est juste pour rire. Quelques jours plus tard, en fait, c'est un médecin légiste qui, dans l'IB, je crois, a raconté que ces morts étaient bizarres parce qu'ils avaient tous une cicatrice sur le corps absolument énorme. Et donc, c'était simplement des gens qui avaient été autopsiés. Mais ça n'avait absolument rien à voir avec la révolution en cours. Donc, c'était une manipulation, non pas des médias, mais au départ des 10 révolutionnaires qui voulaient montrer à l'étranger combien il y avait, combien ce monstre de Ceausescu était sanguinaire, etc. Donc là, il y a eu, si vous voulez, il y a eu des films là-dessus que vous pouvez trouver, je pense, sur YouTube. C'est assez intéressant parce que vous voyez comment il y a eu une opposition très très forte entre les journalistes qui étaient sur place et les journalistes qui étaient à Paris. Les journalistes qui étaient à Paris disant mais attendez, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de morts, là vous dites qu'il y en a 10 ou 12, mais non, c'est pas vrai, vous vous trompez. Et donc ils ont subi le poids des journalistes de Paris qui les a obligés pratiquement à dire qu'il y en avait 12 000. Bon, donc là il y a eu un moment où en tout cas ça n'a pas été clair, je pense, exactement pour tous les Français, mais il y a eu la conviction quand même qu'il y avait de la manipulation, hein, que la manipulation et que effectivement quand on nous montrait 12 morts, ça ne voulait peut-être pas dire qu'il y en avait 12 000. On s'est posé beaucoup de questions. Donc ça a été vraiment un basculement, un premier basculement. Deuxième basculement important, c'est en 91, pendant la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe, d'abord, c'est la première guerre qu'on a en direct. C'est le moment où CNN intervient. Et donc, on a CNN qui retransmet sans arrêt les événements de la guerre du Golfe, mais on n'y comprend rien parce que c'est la nuit, il y a des bombes qui partent dans tous les sens, mais on a l'impression qu'on est dans un jeu électronique. Et ce qui fait que certains journalistes, notamment les journalistes du Monde, disent que, je cite Philippe Escand, qui je crois est encore journaliste au Monde, dit « la guerre devient un immense jeu électronique ». C'est-à-dire que tout d'un coup, on commence à mettre en cause le pouvoir d'information du direct et la représentation des événements. Troisième moment, en 95, le Premier ministre Alain Juppé annonce un grand plan de réforme de la retraite et de la sécurité sociale. L'IB titre, je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme Juppé, l'audace, ou Juppé, je ne sais pas quoi. Enfin, tout le monde a encensé Juppé en disant ça c'est formidable, c'est courageux. Le problème, c'est qu'il y a eu des dizaines de milliers de gens dans la rue pour lutter contre ce plan. Donc, on s'est aperçu, là, nous, critiques sur les médias, qu'il y avait une différence assez grande entre le microcosme des médias et le macrocosme des citoyens. Et que finalement, ils étaient coupés, que les journalistes eux-mêmes étaient totalement coupés du monde, qu'ils ne comprenaient rien à ce qui se passait dans le pays. C'est la troisième chose. Quatrième, 2005, la crise des banlieues. Et des attentats aussi en 95, on se rend compte que les images peuvent avoir une influence sur la réalité. Et notamment, on dit que les images de la banlieue en feu contaminent, qu'on en refait, etc. Et donc, on se pose la question de montrer. Est-ce qu'on doit montrer les choses en 95, Chirac même dit, après un attentat, qu'il ne faut pas montrer. Et pas en parler, pas parler des attentats. Ça, on est loin de ça. Et puis, évidemment, il y a 2015, les attentats de Charlie et du le magasin, provoquent aussi une critique, notamment parce que cette critique de savoir est-ce que les médias transforment la réalité se pose d'une façon extrêmement aiguë et éthique, puisque les journalistes de BFM interrogent quelqu'un qui est pris en otage, un otage du grand magasin, et met la vie en danger des otages. Hein. Donc là aussi, critique des médias. Donc en fait, vous voyez, il y a eu une perte de confiance des images avec Timi Chouara, une perte de confiance sur ce que peuvent dire les images, une perte de confiance sur le milieu journalistique, une perte de confiance sur l'éthique des journalistes. Tout ça fait que l'image des médias s'est totalement dégradée. Alors, ça s'est passé en 30 ans. Certains se sont vus, ont été ébranlés par Timi Chouara, ceux d'après par la guerre du Golfe. Enfin, il y a plusieurs couches comme ça, mais chacun a trouvé des raisons, en tout cas, de se méfier des médias. Et je crois que j'ai les chiffres, je cherchais les chiffres aujourd'hui. Donc en 2020, c'est ça, la radio a encore 50% de confiance, la presse écrite 46%, télévision 40%, donc, et Internet 23%. Vous voyez que ça a évidemment terriblement chuté par rapport à 88. Maintenant, je voudrais revenir plus précisément donc sur ce que c'est que l'information pour les journalistes et pour les complotistes. Alors, pour les journalistes, vous vous rappelez qu'en octobre 2017, il y a eu l'affaire Weinstein. L'affaire Weinstein, je ne vais pas en parler en tant qu'affaire, mais ce qui m'a intéressé dans l'observation des médias à cette époque, c'est que la réaction qu'on a entendue tout le temps, c'est « tout le monde savait ». Tout le monde savait. Ce qui a accru l'idée de ce microcosme médiatique qui est à l'œuvre. Parce que si les journalistes et les gens interrogés peuvent dire « tout le monde savait », évidemment, la conclusion qu'on peut en tirer aussitôt quand on est citoyen, donc on nous a tout caché. On ne nous a rien dit, alors, si tout le monde savait. Et donc, il y a un microcosme, il y a les journalistes qui, eux, savent, et nous, on ne sait pas. Cette dualité entre ce que l'on sait, ce qu'on publicise, et ce que l'on nous masque, est fondamentale dans le fonctionnement du journalisme aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a, par exemple, des émissions qui s'appellent « Zone interdite ». Zone interdite, on va pouvoir accéder à cette zone interdite grâce aux reporters. Pareil pour Cache Investigation, qui va dévoiler des choses qu'on ne sait pas. Donc, il y a quelque chose qui me frappe toujours, et j'en ai souvent parlé aux journalistes, mais qui continue dans leur être, c'est un journaliste qui décrypte. Qu'est-ce que ça veut dire que décrypter ? Quand on dit, ou on me dit, ah François Joss, merci, vous avez bien décrypté. Il n'y a rien de décrypté. Il n'y a pas d'un côté le monde des phénomènes, c'est-à-dire de étymologiquement ce qui apparaît, et puis d'autre part, un monde inintelligible, inaccessible, que seuls ceux qui auraient les clés pourraient comprendre. Et le terme décrypté, on va l'employer aussi bien pour... le fonctionnement d'un ministère que pour la défaite de Tsonga ou la mort de Johnny Hallyday. C'est-à-dire, on va décrypter la mort de Johnny Hallyday, il n'y a rien à décrypter, il est mort. Bon. Donc il y a la conception dans le journalisme d'un monde à double fond, hein, où il y a le journaliste et ce passeur qui vous permet d'accéder à un double fond que vous ne voyez pas. Alors, on comprend, vous comprenez sans doute, vous me voyez venir, si c'est comme ça, on comprend très bien aussi que le complotisme puisse se, s'épanouir sur ce genre de d'idées, hein. Parce que évidemment, si de là qu'on ne sache pas quelque chose parce que c'est pas visible, très facilement on va en faire quelque chose qui est caché, qui est pas invisible, qui est simplement caché ou même qui est secret. Et donc le complotisme peut s'engouffrer là-dedans. Alors, c'est le paradoxe, et c'est un des dangers, si je cite ça, c'est un des dangers qu'on rencontre quand on fait de l'éducation aux médias, c'est que, précisément, il y a une bonne façon, moi, ça fait quand même 40 ans que j'ai enseigné la sémiologie, etc. Dans un premier temps, vous avez des étudiants qui disent « c'est super, c'est vachement intéressant, j'aurais jamais cru que c'était comme ça ». J'en ai eu plein, des étudiants qui m'ont dit ça. Et puis, dans un deuxième temps, ils se disent, ils peuvent devenir complotistes. Je prends un exemple qui m'a toujours frappé. Pendant l'attentat de Charlie, il y a eu des photos de la voiture des terroristes qui ont circulé. Certains ont dit, c'est quand même incroyable, parce qu'il y avait deux voitures. Puisque dans un premier temps, il y avait un rétroviseur qui était noir, dans un deuxième temps, il y avait un rétroviseur qui était blanc. Donc, on se moque de nous, hein, on nous prend pour des cons, parce qu'il y avait deux voitures, on nous dit qu'il y avait une voiture. Bon, en fait, la vérité, c'est que quand un rétroviseur est en métal chromé, selon l'exposition au soleil, une fois il est noir, une fois il est blanc. Bon. Mais vous voyez que c'est un peu angoissant, parce qu'au fond, ceux qui ont dit ça, ils font de l'analyse de l'image. C'est-à-dire qu'ils font de l'analyse des images beaucoup mieux que les générations que j'avais il y a 40 ans. Hein, c'est-à-dire que maintenant, ils sont habitués à regarder les images. Mais pour en tirer parfois des conneries. Et d'autre part, pour en faisant du même coup une confiance exagérée à l'image. Parce que le problème du rétroviseur qui paraît blanc une fois et noir l'autre fois, c'est pas dans l'image qu'on peut apprendre ça. C'est en allant voir son concessionnaire automobile. Donc, vous voyez que l'enseignement de l'éducation aux médias n'est pas si simple. Alors, ce que j'ai observé là, on le retrouve aujourd'hui, hein, avec le coronavirus. Hein. Le coronavirus, on ne nous a pas tout dit. Donc, il y a d'abord eu le scénario de la manipulation avec l'invention du virus par les Chinois ou par les Américains pour détruire les relations économiques. Les deux ont été dits. Et puis, finalement, c'est un grand manipulateur qui est là, c'est Bill Gates. Puis, finalement, c'est la 5G. Puis, finalement, c'est un génocide sanitaire qui est mis en œuvre. Avec notamment le vaccin qui va être le dernier acte. Donc, c'est très angoissant. Et d'où ça vient, ça? Ben, ça vient, effectivement, là, la faute est évidemment du côté des médias, des informations, notamment des informations très contradictoires qui ont été déversées depuis quelques mois. Quand vous allez sur le site qui s'appelle Anti-Vaccin, je ne sais plus où j'ai marqué ensuite, comment il s'appelle. Bon, j'essaierai de le retrouver tout à l'heure. Mais un des sites anti-vaccins, une page Facebook anti-vaccin. Eh bien, ils disent les informations. Alors, les enfants sont très, très contagieux, les enfants ne sont pas contagieux. Les gens asymptomatiques sont contagieux, les gens asymptomatiques ne sont pas contagieux. Les masques ne servent à rien, les masques sont obligatoires. Ils listent tout ça et ils disent, vous voyez, finalement, la conclusion, c'est la même chose que pour l'attentat de Strasbourg de tout à l'heure, hein, c'est qu'on nous prend pour des cons. C'est la même phrase, hein, qu'on retrouve. Oui, c'est dans le... J'ai retrouvé la page, c'est « Stop carnaval masqué, stop dictature ». J'ai fait un article qui s'appelle « Le retournement carnavalesque de la formation » qui est sur AOC, sur le site AOC. Et donc là, oui, il y a un retournement parce qu'effectivement, vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui est dit par ces sites, c'est que les croyants, ce sont ceux qui portent le masque, ce sont les scientifiques qui sont des croyants, et eux ont la vérité. Et cette vérité, elle est aussi par ce double fond de l'information, hein, qui est que, en l'occurrence, par exemple, je vous donne une continuité avec tout à l'heure, le Covid, il vient de Drahi, hein, propriétaire de la chaîne, des chaînes RMC, hein, qui est aussi actionnaire du laboratoire Gilead. Donc, tout s'explique, conclut le texte. Voilà pourquoi ce médicament, l'hydroxychloroquine, a été interdit dans des délais records. On comprend mieux pourquoi BFM passait son temps à démolir le professeur Raoult. Donc, vous voyez, l'amalgame entre ces deux mondes est évidemment très complet. Alors, j'avais appelé ça un retournement carnavalesque en hommage et surtout en pensant à Michael Bakhtine, hein, théoricien du 16e siècle du rire et du carnaval, qui écrivait « On commence par renverser l'ordre hiérarchique et toutes les formes de peur qu'il entraîne, vénération, piété, étiquette, c'est-à-dire tout ce qui est dicté par l'inégalité des hommes. » Et on voit, c'est exactement ce qui se passe dans les pages Facebook sur le Covid, sur la Covid. Bien. Alors, dans ces théories complotistes, j'insiste sur le fait que, une enquête de la Fondation Jean Jaurès et de le complotisme, le site sur le complotisme, ce sont les 18-24 ans qui sont surreprésentés, hein, 28%, de même que les personnes sans diplôme, hein, moins les personnes âgées, curieusement. Deuxième chose importante, seulement 43% des personnes qui adhèrent à 5 théories du complot pensent que le fait de vivre en démocratie est très important. Hein, il y a seulement 43%, je redis pour, seulement 43% des personnes qui adhèrent à 5 théories du complot, le fait de vivre en démocratie est très important. Donc la démocratie n'apparaît pas comme le lieu le plus aimable, le plus estimable. Autre chose, 51% des personnes qui adhèrent à 5 théories du complot pensent que certaines personnes ont des dons de voyance, contre 18% pour ceux qui n'adhèrent pas à ces théories. Et un dernier point très intéressant, c'est que les gens qui ont l'impression d'avoir rien fait de leur vie considèrent qu'ils sont plus complotistes que les autres. Alors, je vous dis la conclusion des rédacteurs de cette étude. Le conspirationnisme serait un trait récurrent de la personnalité de ces perdants radicaux en ce qu'il leur permettrait de se présenter à eux-mêmes et au monde comme les victimes d'une machination ourdie par des forces obscures rendues responsables de leur échec. Donc, on voit comment, par ailleurs, c'était la situation de beaucoup de gilets jaunes qui demandaient un peu plus de respect et respecte un petit peu plus. Bon, j'ai jusqu'à présent, je suis un peu long, mais j'ai bientôt fini, hein, je vous rassure. Oui, j'ai montré donc comment l'histoire, comment les différents moments de dérapage de l'information, comment la conception d'une certaine conception de l'image était responsable de ce glissement de la méfiance vers la haine. Il y a un dernier point qui est très important, c'est de prendre en compte les hommes politiques. L'idée que les médias sont de connivence avec les puissants, ou que les puissances soient de connivence avec les médias. Pendant très longtemps, ça a été l'apanage, cette idée de Le Pen. C'était même pas du tout évoqué par les autres hommes politiques. En 2000, Le Pen, comme vous savez, se plaignait sans arrêt de ne pas être invité dans les médias. Et d'ailleurs, une vérification sur l'INA, etc., montre que c'est vrai, il n'était pas invité dans les médias. Et en 2000, il a fait une déclaration sur les médias, sur les rapports entre la politique et les médias. Il en tirait les points suivants. La connivence média-politique aboutit à la création d'une oligarchie trouvant ses racines dans une génération Trotsko-68-arde. La constitution objective d'une classe médiatique née de solidarité culturelle, d'une vision du monde homogène et de la défense d'intérêts catégoriels identiques. L'exclusion du peuple du fonctionnement médiatique, l'élimination des hommes libres de la scène médiatique. Voilà. Tout ça, c'était ce qu'il disait sur les médias. En 2002, quand il a été au second tour de l'élection présidentielle, ça a totalement libéré cette parole, si je puis dire. D'une part, on a commencé à inviter énormément Le Pen. C'est-à-dire quand, par exemple, après 2001, vous avez 29 invitations sur les chaînes de télévision nationale, France Info, France Inter, RMC. Un changement de statut total, on ne se demande plus s'il faut inviter Le Pen, on l'invite. Il y a un retournement complet. Les politiques commencent à suivre tous, je dis de façon un peu schématique et provocante, mais à suivre tous Le Pen quand ils attaquent les grandes puissances médiatiques. Vous avez par exemple Ségolène Royal va s'en prendre au conglomérat de la finance et des médias. Vous allez avoir Bayrou qui va s'en prendre aussi aux médias, absolument tout le monde. Je ne parle pas du fait, évidemment, j'en parle, qu'un relevé détaillé des passages télé des élus du FN révèle que Philippot a été la personnalité politique, toute étiquette confondue, la plus invitée dans les médias, 65 matinales en 2015. Donc il y a un avant et un après 2002, et on voit que tout le monde tape sur les médias, jusqu'à des propos extrêmement durs, qui sont ceux de Trump aux États-Unis, ceux aussi de Mélenchon en France, qui a dit que les médias, c'était le contraire de la démocratie. Mélenchon a écrit ceci, par exemple, a dit ceci, les 9 milliardaires, payent cher pour qu'une armée de plumes et de lecteurs de prompteurs jaspine dans les micros les derniers ragots qui peuvent être dégainés. Leur métier, c'est d'empêcher les autres de penser et les maintenir au rang de troupeau. Troupeau, c'est le mot que vous retrouvez absolument tout le temps sur les compérationnistes. Pour cela, les milliardaires ont acheté presque tous les médias. Le gouvernement donne chaque année des millions d'aides à la pensée, entre guillemets. À la presse. Vous avez aussi le propos de Le Pen qui a été de dire il faut pourrir les journalistes. Donc tout ça évidemment encourage pour ceux qui n'ont pas confiance dans les médias, tout ça les encourage à les rejeter et à les détester. Mélenchon a écrit aussi la presse est le premier ennemi de la liberté d'expression. Bon, voilà. Je vais conclure pour quand même, parce que je sais que c'est fatigant de suivre quelque chose en plus à distance. Je ne dirais pas que la haine des médias, comme vous voyez, est un phénomène qui naît comme ça très, très, très fortement. C'est plutôt un phénomène qui a de nombreuses racines. Rhizomatique, si on peut dire, parce que tout s'entremêle. C'est difficile de dire ce qui est le prédominant, de hiérarchiser les choses. Par ailleurs, le centrement sur soi remplace un peu chaque jour l'ouverture au monde, et donc ça aggrave cette situation. Je ne dis pas, évidemment, que il faut aimer les médias, pas avec un amour aveugle. Ce que je voudrais faire et ce que je fais depuis un moment, mais je voudrais continuer, c'est qu'il faut critiquer les médias, mais pas les détester, parce qu'ils sont la condition des démocraties. En revanche, c'est vrai que dès qu'on critique un journaliste, parfois il le prend comme un message de haine, ce qu'il faut qu'ils apprennent à ne pas faire. Hein. Alors, je dirais qu'il faut arriver à une situation de doute, mais non pas de doute sceptique, mais de doute plutôt cartésien, c'est-à-dire un doute hyperbolique, donc que je résume de cette façon-là en disant, si vous pensez que les médias ne montrent pas la réalité, vous vous trompez. Si vous pensez qu'ils montrent la réalité, vous êtes dans l'erreur. Voilà. Et c'est entre ces deux choses qu'il faut naviguer, hein. Bon, tout en sachant que l'information est regardée en majorité par 2/3 des moins de 35 ans sur leur smartphone et par, en revanche, la majorité des plus de 35 ans sur la télévision.
Merci François pour cette présentation très intéressante parce que tu as aussi resitué hein, l'évolution et le contexte historique et c'est important. Je te rejoins sur cet aspect, c'est important de resituer sur le temps long, même si certainement que beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, les années 90 sont bien loin, mais néanmoins proches dans en fait, l'historique des médias, puisque la télévision a commencé à se développer dans les années 50, donc c'est quand même, et puis à devenir un média de masse dans les années 60, c'est finalement récent dans l'histoire de l'humanité. Donc tu as effectivement bien montré le contexte hein, qui fait que les médias, que le public porte un regard critique et même parfois violent, on peut dire, concernant les médias et le journalisme. Tu as écrit d'ailleurs des ouvrages comme « La méchanceté en acte » où tu dis qu'il y a une multiplication des meurtres symboliques quand même dans l'évolution de la télévision et du numérique. Et donc, on assiste vraiment à un changement, comme tu l'as dit, de paradigme.